France Culture, Entendez-vous l'écho, Tiphaine de Roquigny.
Bonjour Xavier.
Bonjour Tiphaine, bonjour à tous.
Suez finalement vendu à Veolia, Engie vend finalement ses parts contre l'avis du gouvernement. Au-delà du feuilleton, l'affaire nourrit le débat sur la responsabilité des grandes entreprises.
Et oui, première victoire pour Veolia, donc avec une offre portée à 3,4 milliards d'euros. Engie, qui minaudait, a fini par accepter de céder ses 30% de Suez et la mariée est prête. Mais si un géant de l'environnement doit naître de l'accouplement des deux champions mondiaux, c'est toute la phase de séduction qui est à refaire, puisque Suez rejette toujours l'EPA, qualifié d'hostile de son prétendant désigné. L'État, actionnaire d'Engie, pose comme condition à la fusion un accord à l'amiable, mais c'est désormais la guerre froide entre les dirigeants de Suez et Veolia. Après quelques péripéties dignes d'un Largo Winch, le PDG de Veolia, Antoine Frérot, visiblement irrité, dénonçait il y a 15 jours l'attitude, je cite, pitoyable des dirigeants d'Engie et leur trahison de la France, les dirigeants de Suez, pardon, et en rachetant les 30% de parts de Suez, rappelle le point, ce n'est que la première manche qui est gagnée pour Veolia.
Alors Veolia, Engie, Suez, qui a la responsabilité du blocage?
Eh bien tout dépend où l'on commence l'affaire. Depuis l'offre de Veolia fin août, Suez se pose en défenseur de l'emploi face à un prédateur, mais il n'est que mollement appuyé par Bruno Le Maire, qui ne peut maintenant que réclamer moins de précipitation. Pour beaucoup donc, Veolia a été présomptueux, mais l'histoire est différente si on la reprend depuis mars, dit Stéphane Lauer dans Le Monde, car, écrit-il, Machiavel à la main, c'est bien la direction de Suez qui a commis les 6 erreurs de management que tout prince qui se respecte doit éviter. Pour résumer, elle s'est non seulement laissée surprendre, malgré les avances explicites de Veolia, mais s'est aussi mal barricadée et, en croyant répliquer, s'est tirée une balle dans le pied, braquant ses sponsors, Engie et l'État français. Quant à l'État, co-administrateur d'Engie, il est d'ailleurs depuis ce matin l'objet de soupçons de double jeu et vote de complaisance.
Et le débat sur l'opportunité de la fusion n'est pas terminé?
Alors là, il y en a au moins trois. L'opportunité industrielle et stratégique d'obtenir un géant de l'eau et de l'environnement français. Tout a été dit sur l'intérêt ou le mythe du champion industriel. Les effets de taille sur la concurrence et l'innovation, par exemple, permettent-elles d'investir plus ou tuent-elles la dynamique de recherche et développement? Et puis un débat sur les conséquences managériales et sociales, donc sur l'emploi, priorité, dit l'État. C'est vrai que dans la presse, l'opposition des économistes et financiers est forte, longuement argumentée et parfois cinglante. Logique industrielle quasi nulle et aberration concurrentielle, lâche l'un d'eux dans la tribune, qui ne cache pas sa proximité avec le directeur général de Suez, Bertrand Camus. Et si une histoire d'amour est, selon l'adage, l'échange de deux fantaisies et le contact de deux épidermes, eh bien là, il s'agit plutôt de la rencontre d'une double impasse stratégique, dit Eli Cohen, c'est-à-dire Engie en mal de fond, fait affaire avec Veolia en manque de projet sur le dos de Suez.
Pourtant, Xavier, certains défendent la position de Jean Castex en septembre quand il disait encore que la fusion faisait sens.
Oui, un grand de l'eau issu de cette fusion marquerait les retrouvailles naturelles de l'ex-lyonnaise des eaux avec l'ex-général des eaux, affirme dans la tribune un autre financier qui affirme que Suez est mal logé chez Engie, que le marché est porteur et la concurrence chinoise féroce. Bref, les arguments d'Antoine Frérot pour créer un champion, argument ultime en cette période de licenciement économique, il vaut mieux une bonne OPA franco-française qu'un rachat étranger destructeur du type Alstom General Electric ou Lafarge par Holcim.
Se pose alors la question des OPA elles-mêmes et de leur régulation.
Oui, l'acte de prédation le plus brutal du capitalisme doit-il être laissé sauvage ou domestiqué, résume Jean-Marc Vittori. Tout dépend de la responsabilité des grandes entreprises cotées en bourse. Pour le juriste Christophe Clerc, l'affaire est un test pour une partie de la politique d'entreprise d'Emmanuel Macron, loi Florange et loi Pacte, avec notamment pour enjeu le pouvoir au sein des conseils d'administration. Antoine Frérot de Veolia s'en était fait l'ardent promoteur, mais il a rejeté ce capitalisme de partie prenante pour mener l'OPA directement avec les actionnaires, dit Vittori. Certains souhaitent donc des engagements écrits, voire l'interdiction des OPA hostiles, mais l'économiste et ancien dirigeant d'entreprise publique Jean-Pierre Levade est pessimiste. Suez, dit-il, reste l'agneau sacrifié d'une opération financière et louche. Le PDG de Veolia qualifié de Dr Jekyll et Mr Hyde de la gouvernance d'entreprise. Alors l'État est peut-être décisif, comme il le dit, mais après avoir d'abord semblé valider la fusion, le gouvernement veut désormais moins de précipitation. Alors hypothèse, si elle avait été incitée à l'offensive pour la direction de Veolia, le risque est d'être lâchée en race campagne.
Merci Xavier, on vous retrouve demain pour un nouveau journal de l'écho.